Alors, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui Annie Ernaux dans cette seconde partie, dans ce séminaire. Je ne sais pas si c'est le professeur ou l'écrivain, je crois que c'est plutôt l'écrivain que nous allons accueillir aujourd'hui. Annie Ernaux est l'auteur d'un nombre important de très beaux récits, romans, récits, autobiographies, tous publiés chez Gallimard. Regardant dans ma bibliothèque ce matin, j'ai retrouvé le premier, Les armoires vides, qui a été publié en 1974. Et tous ces récits sont largement fondés sur son expérience de vie jusqu'au dernier, Les années, qui a été publié il y a tout juste un an, et sur lequel j'ai récemment écrit un article, et qui est un petit peu au fond du projet que j'avais dans ce cours, puisque j'avais donné à ce cours comme titre « Écrire la vie », et à l'article que j'ai consacré aux années, j'ai appelé ça « Désécrire la vie ». Vous voyez que ça rimait, et ça montrait combien tout le projet littéraire d'Annie Ernaux depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui est au cœur des questions que je me pose dans ce cours et que nous nous posons dans ce séminaire. Donc, je suis très heureux qu'elle ait bien voulu venir nous rendre visite aujourd'hui et je rappelle le titre qu'elle nous a donné. Ceci n'est pas une autobiographie.
Oui. Lorsque vous m'avez invité, Antoine Compagnon, à parler ici, j'ai eu une réaction d'abord de plaisir, d'amour-propre, mais oui, et puis ensuite le plus grand désarroi. Que pouvais-je apporter ici comme pierre de savoir ? En tant que pratiquante de la littérature, ce n'est pas en tant que professeur, bien que ça ait beaucoup compté dans ma vie, que je suis là. Donc, pratiquante dont les idées que je peux avoir sur l'écriture viennent de cette pratique même, dans une sorte d'incessant bricolage. C'est un terme bien connu de Lévi-Strauss qui m'a toujours paru éblouissant, de vérité. Donc, un bricolage entre toutes sortes d'éléments, entre ce que on veut faire, et, ou bien, d'une autre façon, on pourrait dire, un bricolage entre une tradition culturelle, un champ littéraire, et une nécessité personnelle largement inconnue. Parler de mon dernier livre, « Les années », ou plus généralement de parler d'un livre terminé, ou même de tous les livres qui sont derrière moi, eh bien, c'est plus généralement parler d'un texte qui n'existe plus. C'est parler de ce qui n'existe plus, qui existait, et qui existait d'une manière formidable au cours de son élaboration, de son écriture, comme une source perpétuelle de désir, d'espérance, et de découragement, toujours, qui représentait l'horizon de ma vie. Les années représentaient, avant qu'il soit terminé, comme un horizon continuel, une chose qui pourrait se traduire par « pourvu que je ne meure pas avant d'avoir fini ». Je crois que c'est une phrase qu'on peut se dire quand il s'agit de quelque chose de totalement, qui engage totalement la vie, qui est le plus important. De la même façon qu'on se dit, pourvu que rien ne m'empêche d'aller à mon rendez-vous amoureux. Je crois que c'est du même ordre. Alors le mieux, c'est peut-être de retourner au moment où le texte des années, qui ne s'appelle pas encore les années, n'est pas cet ensemble de pages et fini, terminé, publié, mais qu'il y a seulement ce désir, ce besoin, écrire Alors je vais dire une vie, parce que ça n'a pas été sous la formulation de « écrire ma vie » que ça s'est présenté. Donc cette question, ce besoin « écrire une vie » est aussitôt, c'est une question, comment écrire une vie, ma vie ? Je mettrai toujours une barre entre les deux. Je pense que ça va vous apparaître comme une palissade. C'est que, mais, le désir d'écrire ma vie ou une vie, ou la totalité d'une vie, vient de la vie elle-même. Bon, c'est fourni par une circonstance, une situation, une expérience sensible. Bon, on ne va pas rappeler ici Proust, la Madeleine, tout l'édifice du souvenir qui sort d'une tasse de thé. Mais je crois que la nature de cette expérience qui vous pousse à écrire une vie, la vie, ma vie, cette expérience-là, tout en amont de l'écriture, conditionne obscurément le choix de l'écriture, de la forme de l'écriture. Alors, c'est ici que je vais faire un acte autobiographique, un vrai, un acte oral, le seul qui, à mes yeux, soit impudique, c'est de raconter, ou ce n'est pas un récit, justement, on vient d'en parler beaucoup, mais d'évoquer deux sensations ou deux stupeurs qui sont survenues à la quarantaine, quand j'avais la quarantaine, dans les années 80, qui sont certainement d'une extrême banalité, mais peut-être pas universelle. La première stupeur, elle s'incarne dans une scène. Je suis en voiture et je vais chercher mon fils aîné qui a passé sa première épreuve de bac dans un lycée inconnu à Hermont. Ce n'est pas son lycée. Et je me revois brusquement allant le chercher à l'école maternelle, Annecy. C'est d'un seul coup, alors difficile de nommer, le vertige du temps, mais aussi quelque chose qui touche à la reproduction, dans son terme le plus général, la place que l'on peut avoir dans l'ordre des générations, un ordre qui n'est jamais réversible. Déplacement aussi dans l'espace géographique, de la province à la région parisienne. Et au fond, cette question, c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La seconde stupeur, dans les mêmes années 80, c'est de constater, non seulement dans ma propre vie, mais tout autour de moi, la grande mutation des modes de vie, des valeurs, des croyances, du langage et évidemment de la façon de vivre la sexualité. Cela touche les femmes, mais pas seulement. Mais les femmes de cette génération dont je suis, ce qui passe à travers moi, c'est le sentiment d'avoir été élevée, d'avoir grandi dans un monde et d'être maintenant dans un autre. Je fais partie de cette génération, je m'en rends compte dans ces années 80, qui a vécu les plus grands changements qui soient depuis le début du monde en si peu de temps. Il y a là un devoir de témoigner de quelque chose, de témoigner du passage, de ce qui a eu lieu, mais aussi qui est en train de se poursuivre, dans lequel nous sommes, et qui n'a pas encore été écrit, je veux dire écrit littérairement. Donc, comment écrire une vie de femme qui soit pas seulement sa vie, mais écrire en même temps le mouvement de l'histoire ? Alors, en 89, je note comment saisir le moi et l'époque tout ensemble, ajoutant, et là je n'ai pas peur qu'on me juge de prétentieuse ou naïve, c'est simplement qu'il s'agit d'une question, d'un problème. J'écris aussi, y a-t-il un joint entre la recherche du temps perdu et au temps n'emporte le vent. En 90, je fais le compte-rendu d'une passion qui sera publiée 2 ans plus tard sous le titre de Passion simple, mais qui alors est simplement et seulement à mes yeux le prélude, l'ouverture de ce que je nomme roman total, ou bien, le plus souvent, RT, hein, l'abréviation. C'est une dénomination qui figure sur une chemise, un dossier, rassemblant des notes, des fragments, et c'est classé. Il y a une partie « petites années », une autre « année de jeunesse » et « année de formation ». Année de jeunesse, pardon, ensuite année de formation et au-delà, et divers. Alors voici ce qu'on peut considérer comme la mise au net du projet qui m'habite alors, ou un discours d'intention, ou un cahier de charges, tel qu'il se présente, tel que je l'ai écrit, donc en 90. Écrire sur lui et sur ma passion, comme je le fais depuis plusieurs jours, me paraît inutile. C'est une façon d'accompagner moi-même une souffrance que personne n'imagine et que des livres et des films avivraient parce qu'il y est presque toujours question d'amour. C'est retourner en arrière le plus loin possible et me tenir à une telle distance de moi-même que je me considérerais comme une autre femme, qui m'offre une chance de m'en sortir. Je vais donc partir à la recherche d'une femme dont l'existence s'est déroulée de la dernière guerre à maintenant, début des années 90, à cet aujourd'hui où, en costume marine, Václav Havel, président de la République de Tchécoslovaquie, serre la main du chancelier Kohl, événement dont, pour le moment, la signification est nulle. C'est aujourd'hui qui ne cessera d'avancer, de reculer, au fur et à mesure que j'écrirai. Cette existence, ma mémoire me la donne comme mienne, unique, particulière. Pourtant, je la sens, même dans la passion violente que j'ai éprouvée pour un homme, comme fondue au milieu d'autres, dans le temps commun d'une génération. Le jeu que j'emploie encore ici ne m'appartient pas complètement. C'est un lieu de pensée, de désir que j'ai dû partager avec autrui. Je ne suis d'une certaine façon que du temps qui a passé à travers moi. Pour saisir objectivement cette existence, ne pas prendre seulement en compte les images du souvenir, ni les anecdotes révélatrices d'une identité unique, mais aussi les conditions sociales et l'évolution du monde, il faut mettre au jour ce qui a changé dans cette femme et autour d'elle. Rester toujours dans l'écriture, à la croisée du singulier et du collectif. Dans ces conditions, la scission entre le « je » et le « elle » s'impose comme une évidence. Sans doute parce que née dans un milieu populaire et passée dans un autre monde où l'on ne travaille pas de ses mains, je n'ai pu que me sentir autre. Quand j'étais étudiante, je vivais pendant la semaine à la cité universitaire et je rentrais le samedi chez mes parents à une demi-heure de train. J'avais l'impression d'être 2 personnes différentes, sans rapport l'une avec l'autre. Celle qui allait à la fac, écoutait des cours, buvait du viandox dans les cafés près de la gare, et celle qui mangeait dans la cuisine entre son père et sa mère, les entendait parler des voisins, des clients et des livraisons, comme toujours depuis l'enfance. Mais peut-être aussi parce que l'époque dans laquelle j'ai commencé de grandir, l'immédiate après-guerre, était plus proche du XIXe siècle que d'aujourd'hui. Sentiment ou illusion, en lisant les descriptions de Combray, d'une familiarité, par-delà les différences sociales, entre l'atmosphère de l'enfance de Proust et la mienne, rue sans voiture, chien en liberté, rideau qu'on soulève pour regarder derrière la fenêtre, vieille demoiselle. La petite fille des années 50 que j'ai été vit dans un autre siècle. Et comment pourrais-je maintenant dire « je » en évoquant cette adolescente à genoux sur un prie-dieu, la tête couverte d'une mantille à la messe du dimanche des années 50, qui m'est plus étrangère que n'importe quelle fille avec son Walkman sur les oreilles à Châtelet-Léal. Il y a trop de fausses permanences dans le « je ». Le « elle » sera ici la forme historique du « moi ». Définir la nature de cette entreprise est difficile. Il s'agit d'une investigation où, comme en histoire et en sociologie, la visée est la saisie d'une réalité, où chaque trace, archive, souvenir, photo, témoignage seront soumis à un examen, une sorte d'auto-enquête. Mais les résultats de cette enquête s'inscriront dans la trame d'un récit seul capable de faire revivre le passage des années dans un déroulement figurant celui qui va de la naissance à la mort. Le modèle idéal du récit est peut-être ce que disent avoir vu les gens sortis d'un danger dans lequel ils croyaient mourir. Toute une vie en quelques secondes. Mon projet porte sans doute aussi la marque de l'époque de la fin du siècle. Mais il est lié à l'impression que mon histoire est déposée dans les lieux, dans les gestes et les paroles des gens que j'ai fréquentés, parfois aimés, dans les livres que j'ai lus, les chansons que j'ai entendues. Pas d'autre moyen donc pour la rendre réelle que d'interroger tout ce qui m'a traversée. Vous demanderez pourquoi j'ai exhumé cet avant-texte. Est-ce qu'il était nécessaire de le faire ? Alors que le texte définitif des années intègre l'élaboration du livre lui-même tel qu'elle a eu lieu effectivement, seulement raccourci, mais tout rigoureusement vrai, c'est-à-dire s'appuyant sur des documents personnels, à savoir mon journal intime et mon journal d'écriture. J'ai choisi de dévoiler cet avant-texte dans sa lourdeur extrême, mais pour rendre sensible l'écart entre la clarté énonciative d'un projet, d'une méthode, et la possibilité ou l'impossibilité de sa réalisation. Mais aussi de vous montrer, le désir, la prescience d'une forme d'écriture qui s'inspire, je le vois maintenant, des outils et des moyens des sciences humaines, de la visée aussi des sciences humaines, c'est-à-dire la recherche de la réalité, et une forme d'écriture qui soit en même temps personnelle, puisqu'elle est à la croisée du singulier et du collectif. Sans que cela soit exprimé, il est évident, il est sûr que je ne conçois pas dès le début d'entreprendre une autobiographie, telle que je me la représente. Et occasionnellement, alors, je l'enseigne aux étudiants inscrits au CNED, l'enseignement à distance, c'est-à-dire ce que Philippe Lejeune a défini comme récit rétrospectif en prose que quelqu'un fait de sa propre existence quand il met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité, là je cite Lejeune. Récit qui est à la première personne en général, soumis à un pacte de dire et de rechercher la vérité. Je vois une incompatibilité complète, enfin, pas tout à fait complète sans doute, mais entre l'autobiographie, se écrire sa vie, dont les œuvres estampillées ainsi constituent à mes yeux alors des modèles. Incompatibilité non pas au niveau de la vérité, du pacte de la vérité. Disons que cette question, elle ne m'intéresse pas, elle ne se pose pas, puisqu'il s'agit de travailler seulement sur la réalité. Il y a, que je vais traquer des preuves, qu'il va, pour moi, s'agir de travailler sur des preuves de la vie, de ma vie. Mais il y a une incompatibilité dans le rapport de la vision du moi, de la personne, et je vais employer le mot histoire, de l'histoire, avec un grand H. L'autobiographie m'apparaît comme une entreprise dans laquelle le moi est au centre, même si le contexte socio-historique, la généalogie, sont évoqués. Moi et l'histoire, moi dans l'histoire, mais il me semble qu'il y a toujours dans l'autobiographie telle que je me la représente, la revendication d'une croyance qui est manifestée dans la recherche même d'une identité, d'une sorte d'échapper hors de l'histoire. Il s'agit de se sauver soi, de s'affranchir du temps, de s'en arracher. Alors, comment écrire une vie, sa vie, quand, au contraire, le moi apparaît comme autre, à la fois dans sa mémoire, autre dans ses représentations, qu'il apparaît comme, vous venez d'employer le terme épisodique tout à l'heure, mais effectivement, une conscience instable, traversée surtout, traversée par des discours, des langages qui vont différer suivant les époques. Les discours qu'on se tient sur soi-même ne sont pas les mêmes à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans, et suivant aussi, évidemment, et surtout les lectures qu'on peut avoir faire, toute cette formation. Comment écrire la vie quand on se situe dans, au fond, un renversement de point de vue ? Je dirais même de sensations de ce que l'on est dans le monde. Et je crois que c'est très important, cette idée de sensation, au départ d'une forme d'autobiographie, ou du moins d'écriture. Et moi, là, je mettrais un petit peu, je vois Montaigne c'est cette sensation, ces sensations qu'il exprime de lui, de se dire. Ensuite, il y aura Rousseau, la jouissance de soi. Rousseau exprime une sensation dans tous ses écrits, la jouissance, et surtout dans les rêveries du promeneur solitaire, c'est cette jouissance d'exister. Proust, c'est la sensation, c'est la réminiscence. Et il y a Sartre, il y a le Sartre de la nausée, c'est-à-dire ce que ressent Roquentin, être en trop. Là, je déborde un peu, mais je crois qu'au départ de la forme autobiographique qu'on choisit, enfin de ce que l'on veut dire de sa vie, c'est fondé sur une sensation. Alors, en fait, la question que je me pose et que je vais essayer de résoudre, c'est peut-être faut-il écrire sa vie, peut-être qu'on le peut, de façon totalement impersonnelle. Comme j'ai découvert que l'affirmait le philosophe anglais Derek Parfit, qui disait qu'on pouvait sans doute écrire toute une vie, toute sa vie, d'une façon impersonnelle. Et au milieu des années 90, s'est imposée à mes yeux une forme que j'ai appelée alternativement autobiographie vide ou bien encore autobiographie objective. Tout en donnant comme titre provisoire à mon projet, au livre, le histoire au singulier, ou encore génération au singulier, ou encore le passage. Qu'est-ce que j'entends par autobiographie vide alors et autobiographie objective? Ce n'est pas indissociable, les deux ne sont pas indissociables. Et vide, ça veut dire vide d'un je, d'un moi, d'un individu. Ce serait une autobiographie où il n'y aurait, au sens strict, personne. Seulement des gens, des groupes plus ou moins définis, où on pourrait reconnaître des familles, des communautés scolaires, etc., qui traversent les époques successives de l'après-guerre, toujours à aujourd'hui. L'enjeu, c'est de tout raconter avec « on », avec « nous », avec les pluriels « il », des indéfinis, des pronoms indéterminés. Faire quelque chose d'unanime, là, il y a bien sûr l'influence peut-être de Jules Romain, également de Dos Passos dans Manhattan Transfer, faire quelque chose d'unanime et de polyphonique. Et l'inclusion, l'apparition d'une conscience dans, qui ne serait pas nommée, se fait dans un monde déjà là. Donc il m'a semblé que s'imposait, et d'ailleurs ça s'est imposé tout de suite, le repas de fête. Le repas de fête, c'est la structure rituelle la plus apte à contenir toutes les données historiques, sociales, économiques, tous les rituels, toutes les modes, le renouvellement des générations, les intérêts de chaque époque. Autobiographie objective, qui ne s'en dissocie pas, c'est parce que la vie, ma vie, alors si l'on veut bien, serait saisie dans les mots, les phrases entendues, les coutumes, les rituels, les objets au sens le plus matériel, que ce soit les ustensiles de cuisine jusqu'aux appareils ménagers, ce serait la publicité, ce serait les chansons, ce serait les programmes scolaires, etc. Mais pas d'explication psychologique. Refuser tout ce qui est psychologique, tout ce qui ferait chaîne d'explication. Justement, cette chaîne d'explication du moi que Rousseau veut justement trouver dans les confessions. Même considérer le souvenir, les images du souvenir, les souvenirs des perceptions et des sensations, les considérer comme des portes d'entrée dans la réalité du temps passé. Ce qui se transcrira in fine dans le livre Les années, de cette manière claire, ce sont les perceptions et les sensations reçues par l'adolescente brune à lunettes, là je décrivais une photo, l'adolescente brune à lunettes de 14 ans et demi, que l'écriture ici peut retrouver quelque chose qui glissait dans les années 50, capter le reflet projeté sur l'écran de la mémoire individuelle par l'histoire collective. Donc la première forme que j'ai expérimentée a été entièrement impersonnelle, à partir de la mémoire personnelle. Pas de documents, pas de recherche en bibliothèque, pas de lecture de documents extérieurs. Je ne sais pas si le vrai début d'un livre existe. En tout cas, je vais mettre à part la liste d'images, de ces images qui disparaîtront, qui est le plus ancien début, mais qui est un début sans suite, comme indéchiffrable à moi-même. Mais il y a un début qui a été inamovible. Et ce début, c'est les jours de fête après la guerre, dans la lenteur interminable des repas, etc. C'est-à-dire, toujours en premier, la voix collective qui comprend celle de la famille, des voisins, des amis, du quartier, de la TSF, des voix qui transmettent aux enfants, dont j'ai fait partie, une mémoire historique, le temps d'avant, une mémoire sociale. L'introduction des photos, j'emploierai le mot photo, mais en réalité, ce sera la description des photos. L'introduction des photos qui ne sont pas montrées n'est pas première, n'est pas originelle. Même la première photo, celle d'un bébé sur un coussin, ne précède pas le récit collectif. C'est ultérieurement que je la mettrai en tête. En d'autres termes, ce ne sont pas les photos qui sont à l'origine de l'écriture qui déclenche le récit. Le texte des années n'est pas construit autour des photos. Celles-ci sont incluses dans le mouvement de l'histoire, à l'image de toute existence, mais pas au début. Elles existent vraiment, ces photos. Il n'a pas été concevable pour moi de les inventer, parce que ma démarche est celle de retrouver le passé. Et elles n'ont pas été choisies par avance, mais au fur et à mesure de l'écriture. Pourquoi finalement, donc, introduire des photos personnelles, puisque tout de même, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'il m'est apparu impossible de dire, d'écrire une vie entièrement au pluriel collectif? Est-ce un besoin d'écriture de soi, d'autobiographie qui soit revenue en douce? Est-ce que c'est un désir de sauver malgré tout le moi, de chercher le moi? Ou encore, est-ce qu'il y avait des affects, des expériences si intimes, si personnelles, qu'elles ne pouvaient pas se rendre sous une forme générale? Je ne pense pas. Je crois que la question est ailleurs. Rétrospectivement, il me semble qu'il ne s'agit du besoin, premièrement, d'incarner le temps dans un corps, le passage du temps dans quelqu'un, ou plus exactement ici, quelqu'une. D'un besoin également de découper dans le flot irréversible du temps, c'est l'imparfait que j'utilise, de découper une petite durée, un moment, et de tâcher de ressaisir ce que pouvait être le présent quand il n'était pas passé, de définir ce qu'il pouvait y avoir dans la mémoire de l'enfant, plus tard dans la mémoire de l'adolescente. Et de l'autre côté, c'est-à-dire comme une Janus, ce qui était devant, c'est-à-dire la représentation de l'avenir. C'est une représentation qui ne cesse de changer. Quand on voit l'avenir devant soi, c'est une chanson d'Aznavour d'ailleurs, à 20 ans, et qu'on le voit à 40, ça n'est plus le même avenir, ça n'est plus la même forme. Et tout cela change sans arrêt. Et la photo, ce sera ce moyen, cet arrêt dans le temps. La photo, c'est un présent qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. Ce qui manifeste, je crois, jusqu'au tragique, l'impossibilité pour soi de coïncider avec le sujet qui figure sur la photo. C'est l'autre continuel. C'est l'impossibilité de le rejoindre. C'est la même que celle que l'on a quand on une sensation qu'on éprouve enfant, quand on essaye de rejoindre l'image que l'on voit dans le miroir. Ça, c'est une expérience personnelle. Et la photo, en plus, et surtout, et peut-être c'est là où je rejoindrai effectivement ce désécrire la vie que vous avez employé, que c'est bien sûr un moyen de fuir toute cohérence, toute identité fixe, toute explication, toute liaison. C'est un moyen de se dire comme une autre, comme un autre, avec la plus grande distance. Et puis aussi peut-être, c'est une solution pour intégrer des sensations auxquelles je souhaitais donner un certain relief, une importance. C'est la sensation de se sentir hors de la fête, donc peut-être hors justement de la société à un moment donné, et la sensation que j'ai nommée palimpseste, qui abolit le temps, bien sûr, même si on se sent sur des couches que sa vie et que le moi est une sorte de feuilleté. Et par-dessus tout aussi, je crois, intégrer ce qui est sans doute la seule spécificité que je puisse reconnaître, ou du moins ce qui représente ma vie, c'est-à-dire l'écriture même de ce livre. Et cela, je ne pouvais pas le faire d'une manière impersonnelle, d'une manière générale. Il y a un rapport d'échange, de complémentarité continuelle entre la description des photos dans les années et le récit qui est fait de façon collective et à l'imparfait. Il y a les deux s'échangent. La photo s'ouvre sur le général et l'histoire, le récit collectif, s'ouvre sur le particulier dans un mouvement continuel de passage, d'échange. Lorsque j'étais conviée, donc, en octobre dernier, à choisir un titre à, entre guillemets, conférence, sur le contenu de laquelle je n'avais pas la moindre idée, c'est de façon spontanée la phrase du tableau de Magritte, qui est devenu un lieu commun, un modèle quasi éculé qui, à ce titre, aurait pu figurer dans l'ouverture de mon livre. Ceci n'est pas une autobiographie, ce qui ne signifie pas que ça n'a rien à voir avec la réalité d'une vie, de ma vie, mais que c'est peut-être une autre forme d'écrire la vie ou de faire un décentrement de l'autobiographie, c'est-à-dire de la décentrer hors du sujet. C'est une manière de faire vaciller les traditionnelles, ou plutôt antinomies tenaces entre soi et la société, entre soi et l'histoire. Cette antinomie que l'expérience ne cesse, à mon sens, de démentir. Je crois que je peux finir en citant Rousseau. Notre plus douce existence est relative et collective, et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Et c'est sans doute aussi ce que j'aurais pu mettre en exergue. Voilà, j'étais un peu longue peut-être.
Merci beaucoup, parce que vous avez vraiment, sans avoir assisté à l'ensemble de ces cours, vous avez vraiment fait, curieusement, enfin, il y a tellement d'écho avec beaucoup de choses que nous avons, enfin, que j'ai essayé de dire ici, que je suis un peu frappé par cela, jusqu'au point que j'ai évoqué Derek Parfit et cette façon d'écrire la vie dans l'impersonnalité, oui. Sans savoir du tout que, oui. Mais sans savoir du tout que ça comptait pour vous, oui. Mais peut-être que ça, cet arrière-fond explique pourquoi j'ai été si sensible aux années quand je l'ai lu, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé beaucoup d'éléments dont je ne connaissais pas l'histoire, que vous venez d'expliquer là. Donc cette volonté d'un récit, d'écrire sa vie de façon impersonnelle, comme Derek Parfit justifie que, justement, l'identité n'est pas un récit. C'est à propos de cela, oui. Que je l'ai évoqué il y a un certain nombre, oui. De séances. Il y a un certain nombre de philosophes qui nous disent que l'identité n'est pas un récit et qu'on peut très bien vivre très bien sans se représenter dans cette continuité, oui. Et cette façon de tout lier, comme vous l'avez rappelé, de lier tous les épisodes. Et on peut vivre très bien, dit-il, en acceptant que, bien dans chacune de ces photos, on ne se reconnaisse pas.
Je crois que si on ne... C'est une expérience dont on ne garde pas le souvenir, mais lorsqu'on est très enfant, peut-être on a 2 ans, 3 ans, on vous montre une photo de soi bébé, et on vous dit, c'est toi. Mais qu'est-ce qui prouve ? D'une certaine manière, c'est une croyance, bien sûr. Et la photo a aidé beaucoup à cette croyance d'un moi, tout de même, je crois, la constitution d'un moi, alors que moi, je le ressens justement comme une évanescence, une impossibilité de dire moi.
Comme le signe de la différence, et oui, non pas du tout le signe de l'identité. Mais vous avez raison d'insister sur le rôle historique de la photo dans la constitution du moi moderne.
Du moi moderne, oui.
Qui est très difficile de penser sans ce récit fait à travers... Enfin, on ne peut plus repenser aujourd'hui ce que c'était que d'être un moi sans l'histoire que donnent ces photos.
Oui. Et aussi, peut-être, alors c'est autre chose que j'ai évoqué dans les années, mais le discours psychanalytique, en se vulgarisant, a donné aussi un autre socle au moi, très important, je crois.
Oui. Oui. Alors j'ai été évidemment frappé d'apprendre que les photos n'étaient pas premières, ce que je n'avais pu imaginer. et que les photos sont là. Le livre se est composé, construit, il est... La chronologie est donnée par le,
oui,
la succession
voilà,
des photos.
Oui, voilà, c'est aussi un moyen de donner, une datation. De, ce sont vraiment ce sont des images fixes et la date. Il y a là, on peut évidemment parler dans ce cas-là aussi de ce que représente la photographie, mais peut-être, j'allais dire, de ce qu'elle représentait, puisque maintenant, avec la diffusion extrême grâce au numérique, des milliers de photos, je pense que ça aussi va changer beaucoup,
oui.
va changer
oui.
énormément.
Oui. On n'est plus dans l'univers de l'album de photos, l'album familial, enfin de cette histoire qui est racontée par l'album familial. Et dans votre livre, on sent. Il y a un moment où vous passez à un film, où il y a un film qui figure là, ce qui est déjà une façon de dire qu'on est en train de changer, changer de régime de l'identité.
Oui, c'est très enfin c'est quand même peut-être je ne sais pas si on se souvient tous ici, mais la première fois qu'on s'est vu filmer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je garde toujours le souvenir donc d'avoir été filmée en Super 8. Et alors à ce moment-là, donc il n'y a pas de parole, donc on parle et on n'entend pas les paroles. Il y a là une expérience, de même une expérience qui fait vaciller l'image qu'on pouvait avoir de soi, qui l'extériorise. C'est se voir comme les autres vous voient. Et non pas volontairement, non pas devant une glace, c'est différent. Et puis aussi la voix, l'expérience de la voix du magnétophone. Moi, j'avoue avoir été absolument consternée, horrifiée par la voix que j'avais. Je n'arrive pas encore à m'entendre, je n'arrive pas à m'écouter encore, je m'y habitue, mais j'ai beaucoup de mal. Il y a un seuil qui a été franchi à la fois dans l'image filmée et dans le magnétophone dans les années 70. Voilà. Et il y a un tournant, et je ne pense évidemment, ce qui est une expérience personnelle, je pense que c'était une expérience collective, évidemment aussi. Oui. On retrouve toujours ce partage d'expérience.
Oui, c'est ça qui est... Enfin, moi, je pense que dans votre livre, les années, c'est ça qui est parfaitement réussi. Hein. C'est ce passage que vous avez décrit entre votre expérience et celle d'une génération et la façon dont vous réussissez dans chacun des segments, enfin, en reprenant à partir de chaque photo, à vous éloigner de l'intime pour...
L'intime
pour nous parler de nous tous.
Oui, à partir les photos, je fais quand même une différence entre ce qui est récit collectif, où il n'y a pas de. Moi, j'appelle le récit collectif, c'est par exemple, tout le monde savait distinguer ce qui se fait de ce qui ne se fait pas, le bien du mal, les valeurs, etc. Bon, ça, c'est où il y a. Et puis, il y a la photo et elle. Elle, donc, ce découpage et cette individuation. Le souvenir personnel n'aboutit pas. C'est le contraire d'une cohérence et d'une permanence. Mmh. Est-ce qu'il y a quand même une permanence? Est-ce qu'il y a quand même une cohérence? Pas une cohérence, mais des choses qui résistent. Moi, j'appelle ça quelque chose qui résiste, peut-être. Alors, je ne sais pas, mais je l'ai exprimé sous les formes d'images, de souvenirs, et je reviens là, ce sentiment d'être hors de la fête. Et vous m'avez ressorti le premier livre que j'ai écrit, Les armoires vides, et la bande qui figurait sur... avec surprise, je l'ai revu. Oui, c'était la défaite. Voilà, c'était un jeu de mots, comme on les aimait dans les années 70, ça commençait les jeux de mots, et ça aussi, voilà, c'est un langage qui nous est advenu de l'extérieur, mais que nous avons employé, que nous avons envahi, qui nous a envahi et que nous avons investi, et effectivement, cette sensation, de la fête, hors de la fête, et alors, évidemment, ce qui serait, une cohérence, ce serait d'aller chercher pourquoi. ce serait d'aller chercher pourquoi. Je ne vais jamais chercher pourquoi. Je pense que ce n'est pas possible. Que c'est ça, c'est la fausse, sont des fausses identités qu'on cherche ainsi. Bref, j'allais dire une dissolution absolue, si vous voulez, quand même, du sujet dans les années.
Je parlais tout à l'heure de, dans la vie d'Henri Brulard, cette phrase, quand il revient de manière... quelques épisodes où il peut dire je suis le même qu'il y a 45 ans. Il y a 3-4 épisodes.
Effectivement, oui. Ça m'a beaucoup frappée. Je n'ai pas lu la vie d'Henri Brulard depuis peut-être 15 ans. Je la cite d'ailleurs en disant qu'il écrit « Je vais avoir 50 ans, il serait bien temps de me connaître », c'est ce qu'il dit. Et alors quand j'ai écrit, moi, cette phrase, j'en avais 37, et je la retrouve et je m'aperçois que j'ai plus de 50 ans. Et voilà, donc, mais c'est pas « Il serait bien temps de me connaître », effectivement, je m'inscris tout à fait contre ça, mais « Il serait bien temps d'écrire, de saisir quelque chose ». Mais au fond, c'est pas saisir une vie, c'est saisir le temps. Au fond, c'est ça. C'est de saisir le temps où nous étions tous. Parce que juste sauver le moi, est-ce que c'est intéressant de sauver le moi s'il n'y a pas tout autour de soi? Et c'est là où la nostalgie, c'est un sentiment absolument faux et quelque chose, c'est une illusion extraordinaire parce que si on revenait, il faudrait que le monde avec soi revienne. Et malheureusement, rien. Les autres, tous ceux qu'on a aimés, tous ceux qui étaient avec vous, le monde, dans ce qu'il a d'immédiat, de ce qu'il est là, maintenant, où nous sommes, là, maintenant, qui ne sera plus dans 2 jours, 3 jours, et encore moins dans une année, eh bien, c'est cela que le récit essaye de sauver, parce que c'est quand même un récit, les années. C'est un récit aussi. C'est un récit, mais c'est un récit qui se fait tout seul, presque, où il y a tout le monde, et il n'y a personne.
C'est un récit, oui. Oui, puisqu'on parlait du,
récit.
Parlait du récit, la volonté de briser le récit, c'est un récit brisé aussi.
Oui, je ne sais pas s'il est brisé. C'est-à-dire que l'imparfait place tout sur le même plan aussi, sans hiérarchie. Et je ne sais pas, je ne saurais dire s'il est brisé. J'ai essayé de montrer comment avait été fait, au fond, le livre, en amont du livre. Je ne sais pas comment il est reçu, mais vous me l'avez montré l'article de critique « Désécrire la vie ». Et alors, évidemment, j'ai trouvé ce titre très, très juste. Très juste.
Moi, je l'ai pris après avoir donné le titre de mon cours. Je me suis dit, c'est bien, ça, c'est l'autre côté du miroir, en fait, une sorte de... Alors, dans cet article, mais peut-être qu'on peut en parler un instant, je faisais remarquer que de ces expériences que vous évoquiez, qui sont les vôtres et celles d'une génération et du passage de l'histoire, il y en a une dont je disais qu'elle était absente, qu'elle n'était pas reprise dans le livre, c'était celle même de l'écrivain. Vous parlez, il y a la mère, la grand-mère, l'enfant, la professeure, mais non pas l'écrivain. Je m'étais demandé pourquoi, et je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu.
C'est quand même une question qui s'est posée. Quand je suis arrivée, on peut dire, j'allais dire entre deux photos. C'est-à-dire, il y a le film, plus exactement. Film. C'est un film en 72. C'est un film intitulé « Vie familiale 72 ». Je saisis quelle est cette femme en 72. Elle n'a pas encore écrit. Elle veut écrire. Et là, alors, jusqu'à présent, j'ai montré tout de même, à travers les photos, comment vient toujours ce désir d'écrire, mais il est réalisé à un moment, dans la photo de 63, de dire, elle a écrit un roman, et... je ne sais plus quelle est exactement la page, elle a écrit un roman, et voilà de quoi ça parlait. Effectivement, Il y a eu un roman d'écrit, il y a eu un roman d'envoyé au seuil, et il y a eu un roman de refusé par le seuil, en 63. Bon, est-ce qu'il fallait, je veux dire, refuser l'anecdotique? Ça ne m'intéresse pas, l'anecdotique. Toujours est-il que ce roman n'est pas devenu livre. Il est donc, voilà, et en 72, elle en est là, la femme de 72. Alors, il y a la photo de 80, celle qui est en Espagne avec ses enfants et avec son mari. Et ça va très, on peut dire, dans la vie courante, on dit dans la vie, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas du tout. C'est, et que dois-je faire? Bon. Alors, à ce moment-là, c'est vrai, j'ai deux livres de publier. J'ai deux livres. En fait, j'en ai un troisième qui va sortir, qui est La femme gelée. La question, qu'est-ce qui est important à ce moment-là, et de s'apercevoir que ce ne sont pas mes livres qui sont importants. Ce n'est pas les livres une fois qu'ils sont faits. C'est ce que je suis en train de vivre. Et c'est toujours, au fond, ça. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de perdre. L'écriture, ce sera toujours du hors-temps. C'est pas datable. Ce n'est pas, on peut dire, je peux mettre à la fin du livre, écrit entre deux dates, mais c'est simplement des repères très très flous. Il y a, et alors, vous allez dire, mais parler alors de la vie d'écrivain, je n'ai pas du tout envie, parce que si vous voulez parler d'aller à des émissions, ou de lire les articles critiques, non, c'est pas intéressant.
Non, mais ce que je voulais vous entendre dire, vous l'avez dit, c'est que l'écriture, c'est du hors-temps.
Oui, l'avez dit. C'est ça.
Je crois que c'était ce que je suggérais dans l'article, c'est que le temps de l'écriture est du temps volé, c'est du temps...
Oui, et dans mon cas, ça a souvent été du temps volé.
Oui, voilà. Du temps volé.
Oui.
Et c'est assez... C'est comme ça que je comprenais, moi, oui, l'absence de cette part de la vie qui prend quand même beaucoup de temps.
Et qui prend beaucoup de temps, oui.
Mais qui ne se retrouve pas dans cette expérience ni singulière, ni collective.
Collective, ça aurait été très difficile. Je crois que vous avez posé une question dans votre article, votre texte de Déscrire la vie. Pourquoi est-ce que j'avais pas finalement échoué dans le roman total, le projet oui, initial. Et effectivement, Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on écrit, quand j'ai écrit à peu près presque tous mes livres, et particulièrement celui-là, il y a l'horizon imaginaire du livre. Et cet horizon, effectivement, il était très grand, finalement, mais il était très flou aussi. Et au fur et à mesure que des pages s'ajoutent aux pages, c'est le livre qui domine. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est autre chose d'inconnu, mais qui guide et qui fait que vous dire « Ah non, je ne parle pas de ça, et puis non, et puis ça plutôt, et ça, mais je veux dire qu'on ne peut même pas le mesurer. » Donc, le livre est tiré par un fil, une forme inconnue qui ne sera réalisée qu'à la fin. Et alors, est-ce que c'est quelque part une version « light » du projet total? Au fond, ce n'est plus une question qui peut se poser pour moi. Ce n'est plus une question. Alors, une autre question, ça serait, est-ce que je peux écrire de la même façon quelque chose qui, puisse ressembler, enfin, je ne sais pas. Mais ça, c'est autre chose.
Oui, la question que je posais, c'est une question... Enfin, venant de Proust, est-ce que le livre qu'on a entre les mains, est-ce que ce livre est celui qui est fantasmé, qui est évoqué, ou bien un autre, ou bien un substitut?
Lorsque plus il avançait, plus il devenait. Mais oui.
Plus c'est celui-là.
Ah, oui. Oui, absolument. Oui, oui, oui.
Mais vous évoquez comme modèle La recherche du temps perdu, oui. Autant en emporte le vent et Vie et destin, oui. Qui sont, c'est les trois modèles.
Oui, je veux dire, moi je ne sais plus quel écrivain avait écrit, c'est peut-être un écrivain américain, mais j'ai oublié son nom, en disant, si Proust elle l'a fait, je peux le faire.
Oui,
c'est la leçon aussi du temps retrouvé, c'est de renoncer au modèle. C'est de renoncer au modèle.
Oui.
C'est très difficile d'ailleurs.
La recherche du temps perdu, ce ne sont pas les mémoires de Saint-Simon. Non.
Voilà. Voilà. Mais on ne continuera pas en disant que les années, ce n'est pas la recherche du temps perdu.
Non, non, non. Bon, écoutez, je crois qu'on va de nouveau vous remercier.